ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Tarek Tamardja. Merci Tarek d'être venu dans notre radio pour nous parler du Maoulid, la fête de la naissance du prophète.
Merci Benoît, merci pour cette invitation, merci aux auditeurs pour leur écoute. Je trouve qu'effectivement, honorer cette invitation était quelque chose d'important puisque bientôt nous nous apprêtons à célébrer cette fête, le Maoulid, la fête de la naissance du prophète.
C'est dans 3 jours. Mais d'abord, je devrais dire, ça fait plus de 3 ans que je vous demande, Tarek, de venir à cette radio pour parler de votre foi, parce que nous nous connaissons depuis vraiment très longtemps. Hein. Vous êtes scout musulman, vous faites une thèse à Bordeaux, qui sera bientôt finie, et on croise les doigts. C'est sur...
Le malikisme au Maghreb médiéval.
Alors, ben, on pourra discuter de quand commence ou termine le Moyen-Âge, tardif ou pas. Et aussi, vous êtes scout très engagé ou engagé dans les scouts musulmans.
Oui.
Et vous êtes aussi au groupe d'amitié islamo-chrétien. Oui. C'est pour ça que nous avons plein de sujets de conflits. Parce que moi, je suis un sociologue agnostique, mais bon, vous y croyez. Et dans votre histoire, c'est un vrai débat. Comment est-ce que vous mettez votre foi, votre engagement sous le mouchoir? Parce que c'est une thèse académique, on va parler
Absolument.
De la neutralité.
Absolument.
Mais en même temps, on va parler de nos convictions. Alors, ben oui, Jésus est le prophète. Hein, et
oui.
puis, toute une série de débats. Nous ne sommes pas ici pour nous convertir l'un l'autre.
Non.
Nous sommes ici pour partager en amitié un certain nombre de questions très intéressantes, comme le fait de s'agenouiller. Puisque nous avons mis devant, pour la replay, sur le site de la radio, la double lune que vous m'avez envoyée il y a
oui,
3 jours.
Oui, oui. Cette double lune, je la trouve intéressante comme image, parce qu'elle présente en même temps les deux aspects de la lune, l'aspect apparent et l'aspect caché. Et je crois que ça reflète quelque chose dans ma spiritualité, dans ma foi, dans ma religion, qui est cet islam, entre guillemets, orthodoxe, mais en même temps nourri par une verticalité soufie.
Alors, il y a des dogmes, et puis il y a la réflexion, il y a la pratique, mais il y a aussi la réflexion et l'intimité. Non seulement dans la découverte du mystère du cosmos, mais aussi dans ce mystère qui nous habite et dans cet échange sur ce que c'est que le sacré et donc la prière. Et vous nous parlerez tout à l'heure, je crois, de savoir ce que signifie être à genoux, se prosterner, et ce que signifie aussi de faire religion avec d'autres.
Absolument.
Relire un texte que l'on dit révélé.
Oui.
Mais il n'y a pas que le Coran, il y a aussi les hadiths du prophète.
Oui.
Et puis, cette question également qui va peut-être nous diviser, de dire, est-ce que nous prions Jésus ou comme Dieu et ses anges prient sur le prophète? Parce que c'est, pour certains, Jésus est un prophète.
Oui, pour les musulmans, c'est le cas.
C'est aussi.
Explicitement.
Alors, le mot prophète va être pour nous une question de définition, de la même manière que nous allons réfléchir sur Maoulid.
Maoulid, Maoulid. Rien que le mot, Maoulid, qu'est-ce que ça signifie? Maoulid, ça fait référence à la racine trilitaire Walada, qui renvoie à l'idée d'engendrement, de naissance, de faire advenir, finalement. Le prophète, en l'occurrence, celui qui est concerné par cette action d'engendrement devient le weld, celui qui est engendré. Donc le prophète, pour les musulmans, sa naissance a quelque chose, on pourrait dire, d'extraordinaire. Et même, peut-être que ce n'est pas connu parmi les personnes qui ne sont pas musulmanes, parmi nos amis chrétiens notamment, c'est quelque chose de miraculeux pour les musulmans, puisqu'ils vont jusqu'à dire que la lune a été fendue en deux à sa naissance. ça a quelque chose de cosmique, la lune, qui sera le symbole cosmique qui fait le plus référence au prophète, comme si le soleil évoquait le divin, la lune évoque cet aspect prophétique qui reflète la lumière de Dieu, qui est fendue en deux et qui annonce qu'on est non pas face à une simple naissance, mais pour les musulmans, dans leur dogme, face à la naissance de la meilleure des créatures venue pour apporter la miséricorde au monde.
Venue apporter la paix. Alors, parfois, nous avons plutôt l'idée du croissant. Et le croissant de cette lune qui croît ou qui décroît, selon qu'on est à l'est ou à l'ouest, en Occident ou en Orient. Mais je reviens sur cette question de la naissance parce que souvent, il est dit que le prophète était inculte. Et c'est un débat parce que certains disent, oui, il était inculte au niveau de la foi. Il a fallu cette révélation avec Djibril, l'ange, pour qu'il comprenne qu'il avait une mission à apporter un message au monde, et nous reviendrons peut-être sur cette question de la falsification des religions antérieures.
Très bien.
C'est tout un dogme, mais c'est aussi une réflexion de sagesse pour savoir toutes les idoles que nous échangeons ou tous ces conflits au nom d'un supposé Dieu. Alors, on sent votre paix à parler de ces questions et oui, votre sourire pour dire oui, il y a un mystère, on ne va pas convaincre par la force.
Non.
Nulle contrainte en religion.
Surtout pas. C'est ça, nulle contrainte en religion. Je crois que s'il y avait un principe parmi les principes dans le dialogue qu'on pourrait avoir entre personnes partageant des points de conviction et des divergences, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. Et que personne n'est tenu de convaincre l'autre malgré lui.
Et nous sommes appelés à nous entre-connaître.
Voilà.
Alors, une des traductions, justement, du Coran, c'est de dire, non pas le Seigneur, le Tout-Puissant, mais l'enseigneur, celui qui enseigne. Je reviens à cette notion de transmission de la foi, parce que, en fait, vous venez depuis relativement peu à Toulouse, mais vous n'avez pas baigné dans cette culture, disons, religieuse, et vous avez fait une certaine conversion. Vous avez été attiré par une réflexion qui vous a emmené ensuite à faire des études d'histoire.
Je ne parlerai pas exactement de conversion. Je crois qu'en islam, le mot conversion n'est pas le plus approprié. Il y a tout un tas de divergence à ce propos, peut-être certains parleraient de reconversion. Je dirais pour ma part plutôt un rapprochement. Un rapprochement, c'est-à-dire que à un moment donné, on est en situation d'éloignement et puis quelque chose cause une prise de conscience qui va nous rapprocher vers le divin. Concrètement, ce que j'ai reçu de religion, ou je pourrais dire de religiosité, dans mon enfance, par exemple, c'était assez rudimentaire. C'est, j'ai envie de dire, les actes de culte les plus basiques, la foi la plus simple, mais en même temps la plus sincère et la plus honnête. Mais rien de plus, pas quelque chose qui serait dans la recherche d'un quelconque mérite spirituel. Faire le bien à peu près, voilà tout. Et avec cette foi, cette transmission de base, j'ai vécu jusqu'au moment où l'introspection, la vie, des moments de solitude ont fait que j'ai été amené à chercher autre chose. Et c'est pour moi ça que j'appelle la foi, c'est-à-dire la découverte, non pas de quelque chose de nouveau, mais de ce qu'on a toujours été. Voilà. Et pour moi, le soufisme, ça a été une réponse, si ce n'est la réponse à cette question.
Oui, mais je disais tout à l'heure que nous nous connaissions depuis longtemps et en fait, on voit à certains moments la rencontre des autres, parce que ce soit au monastère dans Calcutta avec les moines bénédictins ou que ce soit dans ces rencontres du groupe d'amitié islamo-chrétien. Et tout dernièrement, aussi la journée internationale d'Ivre ensemble en paix, la marche dans Toulouse avec nos amis libanais pour fêter Marie.
Absolument.
Et même en tout dernier, autour de Michel Rouffet, à Sainte-Marie du Désert, n'est-ce pas, au village de François. Chaque fois, il y a une recherche d'une intériorité et qui se vit à plusieurs.
Je crois que c'est dans l'autre qu'on confronte aussi cette intériorité que l'on trouve en soi-même. Trouver quelque chose en soi-même, ça demande vérification. Ce n'est pas simplement se dire, en tous les cas, c'est comme ça que je le vois, j'ai trouvé. Non, c'est d'aller vers l'autre et vérifier sa vérité. Sa vérité, non pas comme quelqu'un qui questionne pour mettre mal à l'aise, non, mais comme quelqu'un qui écoute. Et je crois que dans cette écoute-là, il y a quelque chose qui se crée.
Alors, il y a le sens des mots lorsqu'on échange, parce que parfois, on a dit, il y a des mots valises qui sont parfois des murs ou des frontières ou qui opposent. Mais il y a des mots qu'il faut creuser et il y a aussi la musique.
Oui.
Et vous nous avez apporté, je ne sais pas comment il faut annoncer cela, si c'est une prière, si c'est la vie du prophète, vous allez nous dire,
oui.
Vous nous traduirez ces quelques minutes que Christophe va nous faire écouter. Et redites-nous déjà en deux mots, parce que l'oreille occidentale n'est peut-être pas toujours habituée, celle qui connaît le grégorien ou le rap ou la musique moderne. En deux mots.
Nous sommes dans un poème qui est chanté de façon rythmée, rimée, qui s'appelle Bourda. Le Bourda, c'est un poème qui a été écrit par un grand personnage qui s'appelle Bousayri, un soufi, qui a dédié ce poème au prophète et qui est devenu le poème le plus célèbre de louange adressé au prophète.
مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في الظلماء من إضام مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت اكفو فهمت وما لقلبك إن قلت استفيق يا هيمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Monsieur Tarek Tamardja, vous êtes doctorant à Toulouse en histoire sur le maléquisme au Maghreb médiéval. Vous êtes scout musulman et vous adhérez au groupe d'amitié islamo-chrétien et vous êtes soufi. C'est pour ça que vous nous avez apporté ce chant qui raconte la vie du prophète, puisque dans trois jours, nous allons fêter le Maoulid.
Absolument. J'aimerais simplement préciser que je ne me reconnais pas moi-même comme soufi, mais que je préfère parler plutôt d'aspirant au soufisme.
C'est tout un cheminement.
C'est tout un cheminement, tout exactement. Une... Je considère que je ne suis qu'au début du chemin. Voilà.
Une initiation.
Exactement. Concernant ce poème que je trouve magnifique, personnellement, je voulais qu'il soit présent dans cette émission pour au moins deux raisons. Je pense que la principale, c'est que le soufisme, contrairement à l'image que l'on s'en fait aujourd'hui, a été l'islam majoritaire pendant la plus grande partie du Moyen-Âge. Jusqu'au XXe siècle, le monde musulman est soufi, à plus de 80%. Chaque famille avait son cheikh. Chaque faqih était attaché à une voix, rattaché à une voix, lui-même à un cheikh, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le soufisme donne l'impression d'être un exotisme au sein même de l'islam, ce qu'il est loin de l'être, puisqu'il en est le cœur. Le cœur ne peut pas être exotique au corps.
Le retour aux origines, diraient certains, mais d'autres vont dire « Non, c'est le wahhabisme, retour au pieux... aux pieux fondateurs ou les premiers compagnons du prophète.
On peut avoir un désaccord franc avec les salafistes et les wahhabistes, désaccord qu'à titre personnel j'assume. Le retour aux pieux prédécesseurs se fait dans la spiritualité. Il ne se fait pas simplement dans la lettre du texte pour le salafisme, pour le wahhabisme. Personnellement, je parle d'une tradition inventée. Car leur filiation avec les pieux prédécesseurs dont ils se réclament n'est pas nette. Par quelle chaîne de transmetteurs ils auraient une légitimité plus grande que les soufis, par exemple, ou les mouvements les plus orthodoxes en islam, de se réclamer de ces pieux prédécesseurs? À cela, on leur répond que les pieux prédécesseurs sont mieux connus par nous que par eux.
D'où l'intérêt que vous avez de faire de l'histoire. Et moi, le sociologue, je dirais oui, mais il faut bien distinguer dans ces courants religieux, comme dans toute tradition, que ce soit chez les chrétiens, les juifs ou les bouddhistes. Nous en recevions l'une dernièrement, la semaine dernière, qui nous parlait des différences entre l'Inde, le Japon et la France. Mais le courant politique n'est pas le courant mystique. Le courant mystique n'est pas un courant théologique ou social. Et souvent, malheureusement, l'inculture mélange tout ça pour stigmatiser l'autre.
C'est vrai.
Et vous n'avez pas dit la deuxième raison
effectivement, de citer le Bourda, c'est le Maoulid lui-même. Pourquoi ? Parce que la Bourda résume, de façon donc rythmée, rimée, poétique, la vie du prophète. Que tout un chacun, même un enfant, en écoutant le Bourda dans les événements de la vie, il y a quelques siècles, pouvait retenir quelques aspects de la vie du prophète avec lesquels il pouvait faire correspondre sa propre vie à l'instant T ou plus tard et s'en servir comme modèle, comme exemple. Parce que pour les musulmans, l'exemple suprême, c'est évidemment la figure du prophète Mohammed.
Oui, mais pour un enfant, l'exemple commence par son papa et sa maman, et de savoir, est-ce qu'ils vont à la mosquée, est-ce qu'ils vont jeûner certains jours, qu'est-ce qu'ils vont manger, comment s'habiller. Et pour chacun de ces moments, il y aurait de grandes discussions à tenir, et il y a des grandes enquêtes. Moi, je voudrais juste rappeler cette émission du dimanche matin qui nous intéresse forcément. Lorsque Galeb Benchek fait venir sur France Culture un dominicain qui réfléchit sur la position, sur la posture d'être à genoux. Lorsque sur Antenne 2, il y a aussi Monsieur Afidi qui évoque la question peut-être de la baïa ou de la nourriture ou du jeûne. Voilà autant de lieux où on va dire, alors il y a un islam républicain et puis il y a l'islam qui serait laïque. Alors je m'adresse à l'universitaire. Oui. La notion de laïcité, vous êtes avec une définition, on va dire, stricte ou bien une laïcité ouverte. Vous voyez tous les débats qui ont eu lieu en un mot.
Je pense que la notion de laïcité est totalement centrale dans le débat politique aujourd'hui. On ne peut pas ne pas le voir. On ne peut pas ne pas voir à quel point c'est une question centrale.
Comme instrument de liberté pour que chacun puisse s'exprimer.
Évidemment. Donc, Concernant l'islam, je pense que l'islam est républicain par nature. Il est républicain par nature dans quel sens ? Dans le sens où l'islam, par définition, est ouvert au dialogue. Alors, on n'a pas besoin de laïcité ouverte ou inclusive. La laïcité se suffit à elle-même. Elle a permis à l'islam d'avoir et des lieux de culte et de pratiquer sa foi dans le territoire de la République sans aucun problème. Donc pour moi, si on est musulman conséquent, par nature, on accepte la laïcité sans qu'on en fasse un scandale.
Oui, mais on a dit que l'islam, c'est d'être soumis. Et nous avons un ami, M. Bidar Abdennour, qui parle de l'islam sans soumission.
Oui.
Revenons, s'il vous plaît, peut-être au moment de prière, puisque on avait dit que nous parlerions de la posture, d'être à genoux,
oui,
ou de tourner la tête vers la droite ou vers la gauche, vers les autres. Vous priez en cercle, pas toujours forcément dans une mosquée.
Oui.
Vous, je dis vous, en tout cas certains amis soufis,
oui,
à Toulouse ou, oui, dans les régions autour. Et avec cette psalmodie, qu'on dirait.
Ce qu'il faut dire concernant la pratique soufie, c'est que la pratique soufie ne remplace pas la pratique islamique normale, j'ai envie de dire. L'islam, c'est un rapport au corps aussi. Effectivement, dans la génuflexion, dans la prosternation, il y a quelque chose, je ne dirais pas aujourd'hui de soumission, parce que ce mot est connoté, mais d'humilité. L'humilité face au divin, l'humilité face au vivant, l'humilité face au mystère qui fait que nous sommes là, je crois, s'incarne aussi dans ces postures. Concernant la pratique soufie à proprement parler, elle se rajoute à la pratique islamique quotidienne. Les cinq prières ne sont pas remplacées du tout. Le soufi, tout comme tout autre musulman, est tenu par ces engagements-là. Néanmoins, il y a des pratiques supplémentaires pour ceux qui voudraient goûter à quelque chose de plus spirituel dans des réunions plus spécifiques qui sont effectivement accessibles. Là, on a également ce rapport au corps qui existe, qui est présent dans la forme du cercle que vous avez un petit peu évoqué, qui est une forme très importante pour l'islam et les musulmans, mais également dans cette idée de souffle. Parce qu'il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de chants, il y a un rapport à la beauté du son et du sens et de cette conjugaison des deux. Et ce souffle qui va unir plusieurs personnes pour qu'elles expirent et qu'elles inspirent dans une même respiration.
Et on reprend des forces ensemble devant, oui, le mystère, devant la méditation.
Oui.
Alors, il y a aussi les prières individuelles dans sa chambre.
Oui.
Et nous avions abordé le chapelet, qui sont les 99 noms de Dieu.
C'est ça.
Et alors, certains vont dire, mais c'est pas pareil qu'un bracelet. Une dame disait sur le lit d'hôpital, ah, j'ai mis le bracelet à votre maman qui vient de mourir. Bon, non, c'est le chapelet, c'est-à-dire les noms de la Vierge Marie. La prière. Vous aviez une citation, je crois, que vous vouliez nous donner.
J'ai parce une petite citation qui fait référence aussi au prophète, parce qu'on dit Dieu et les anges prient sur le prophète. Et souvent, il y a une ambiguïté concernant ce verset du Coran. C'est un extrait des très saintes inspirations du Cheikh Al-Alaoui, le fondateur de la Tariqa Alaoui, de la voie Soufi Alaouia en Algérie, qui est un grand rénovateur, un grand maître soufi du XXe siècle.
Et nous avons eu M. Bentounes et sa fille Sophia ici.
Exactement, exactement. Dont effectivement, le maître actuel est le Cheikh Khaled Bentounes. Le Cheikh Alaoui dit simplement, et je voulais citer cet extrait pour donner une idée simplement de ce que pouvait être une lecture soufi de choses bien connues. Mais la lecture soufi, évidemment, présente quelque chose d'inédit. Je cite « Que la prière et la paix soient accordées à Mohammed, à sa famille, à ses compagnons et à celui qui suit sa voie. La grâce, Salette, la grâce, ça c'est la prière, réfère pour les soufis à la théophanie divine, At-Tajalli. Lorsque le Seigneur Très-Haut choisit un homme pour en faire un ami, un wali, et lui permettent d'accéder à sa présence, tantôt il apparaît à lui, tantôt il se dissimule, le laissant brûler du désir de le voir se manifester à nouveau. Voilà, là on a un exemple d'un extrait de comment cette salette, donc cette prière sur le prophète, n'est pas interprétée au sens simplement du corps, mais dans un sens beaucoup plus spirituel, où on voit qu'il y a cette notion de manifestation du divin.
Alors c'est ce message de paix et cette ouverture aux autres que vous nous apportez, et nous fêtons à tous nos amis musulmans, nous souhaitons plutôt des vœux de bonnes fêtes à tous nos amis à cette occasion, et nous aurons cette année continuer vers d'autres moments forts de cette religion que nous devons mieux connaître. Merci,
merci
Tarek.
Beaucoup. Merci beaucoup.
Merci à Christophe pour l'enregistrement.
Merci.